Merci d'écouter RFI, les 5h30 à Paris, 6h30 à Goma et à Khartoum. Et comme promis, aussi Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Et cette question, à la une de votre journal, quel crédit apporter à cette dernière déclaration du M23 ?
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles soutenus par le Rwanda annoncent se retirer de la localité de Walikale, province du Nord Kivu, Walikale Centre, dont ils se sont emparés cette semaine. Ils disent vouloir favoriser un climat propice au dialogue. Mais sur place, quelle réalité et qu'en pense-t-on à Kinshasa ? On fait le point dans un instant. Dans ce journal également, la guerre au Soudan et l'armée nationale qui continue de gagner du terrain à Khartoum. Après le palais présidentiel avant-hier, ces soldats ont repris le contrôle hier de la banque centrale et du siège des services de renseignement. Nous serons aussi en Afrique du Sud. Après 5 ans de travaux, la bibliothèque municipale de Johannesburg vient finalement de rouvrir partiellement au public. Et à Abidjan, quel est le secret du bonheur des Ivoiriens ? La Côte d'Ivoire se classe première d'Afrique de l'Ouest dans un classement établi cette semaine par l'Université d'Oxford. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec du football. Les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. 2 matchs hier, 2 autres aujourd'hui. Les détails tout à l'heure avec Antoine Grenier. L'information est venue hier après-midi via un communiqué, ce que publie régulièrement l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, dont le groupe armé M23 fait partie. Les rebelles annoncent leur retrait de Walikale Centre, cette localité de la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, dont ils ont pris le contrôle plus tôt cette semaine. Retrait dans un effort, disent-ils, de favoriser un climat propice au dialogue. Dans la soirée, l'armée congolaise a dit prendre acte de cette annonce, mais sur le terrain, la situation était encore floue. Et cette annonce laisse la porte ouverte aux interprétations et aux hypothèses. Patient Ligodi.
La première hypothèse, c'est l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de dialogue. C'est ce que soutiennent certaines sources proches de l'AFC M23. Un sommet virtuel entre l'USC et la SADC est annoncé pour la semaine prochaine. Ce sera une occasion de faire avancer la junta régionale sur le cessez-le-feu et un éventuel dialogue politique. De son côté, Thérèse Kayikwamba, chef de la diplomatie congolaise, a affirmé hier que le gouvernement est disposé à discuter. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une délégation envoyée par Kinshasa s'est rendu en début de semaine à Luanda sur l'invitation de la médiation angolaise. Concernant l'annonce de retrait de Walikale Centre, Thérèse Kayikwamba a déclaré hier que le gouvernement congolais attend de voir si cette déclaration va se traduire en acte concret. La deuxième hypothèse, c'est une manœuvre stratégique pour gagner du temps. C'est l'option défendue par des sources de l'armée contactées par RFI. Dans les rangs des forces armées congolaises, on reste sceptique. Des sources disent ne pas croire au discours de l'AFC M23. Elles y voient une manœuvre destinée à gagner du temps avant peut-être une tentative de progression vers Kisangani, à environ 400 km de Walikale Centre.
Patient Ligodi qui évoquait à l'instant la chef de la diplomatie congolaise. Vous l'entendrez dans le prochain journal sur RFI dans une vingtaine de minutes. Elle explique pourquoi Kinshasa désormais est disposé à parler avec le M23 alors que cela a longtemps constitué une ligne rouge pour les autorités congolaises. Et Thérèse Kayikwamba assure que le dialogue est désormais vu comme la chose la plus opportune pour épargner les vies des Congolais. Quartier après quartier, voire même bâtiment après bâtiment, l'armée nationale soudanaise continue de reprendre le contrôle de Khartoum, la capitale du Soudan, où ses ennemis, les paramilitaires FSR du général Emeti, eux sont clairement sur le reculoir. Vincent Dublanche, bonjour.
Bonjour Xavier. Bonjour tout le monde.
Hier, Vincent, alors que des violents combats étaient par ailleurs signalés dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays, à Khartoum, l'armée du président Al-Burhan a annoncé avoir repris possession, notamment de la banque centrale.
Oui, des succès symboliques s'enchaînent pour le général Burhan dans la capitale. Khartoum dévasté par 2 années d'un conflit civil si brutal qu'on ne peut en estimer précisément les pertes humaines. Ce samedi, le porte-parole de l'armée nationale annonce dans un communiqué des progrès, la reprise de plusieurs bâtiments de Khartoum, la banque centrale du Soudan, le siège des services de renseignement, le musée national. Il indique également que l'armée soudanaise a éliminé des centaines de membres des FSR du général Hemeti qui ont tenté de fuir. Affirmation impossible à vérifier. Ces conquêtes, en tout cas, font suite à celles du palais présidentiel. On en parlait hier, officialisé donc vendredi, accompagné, comme à chaque fois, de vidéos triomphantes diffusées sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, l'armée régulière a pris un ascendant très clair dans la capitale, mais plusieurs quartiers restent entre les mains des FSR. Dans le même temps, des combats se poursuivent également dans l'ouest du Soudan, au Darfour. Selon des acteurs de la société civile, au moins 45 civils ont été tués jeudi lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'El Malha. C'est au nord Darfour. Les FSR avaient affirmé avoir encerclé et pris cette ville, faisant plus de 380 morts ennemis, selon eux.
Merci Vincent Dublanche. Et au Soudan du Sud, c'est par crainte d'un conflit à grande échelle que l'Allemagne annonce fermer provisoirement son ambassade à Djouba. La chef de la diplomatie allemande estime que le pays est à nouveau au bord de la guerre civile. Ces dernières semaines, des combats ont eu lieu, notamment autour de la ville de Nasir, près de la frontière avec l'Éthiopie. Combat entre l'armée sud-soudanaise et une milice, la White Army, présentée comme proche du vice-président et opposant Riek Machar. En Centrafrique, les proches de Joseph Figueira s'impatientent. Joseph Figueira, ce chercheur belgo-portugais, spécialiste des peules et de la transhumance, qui est en prison depuis maintenant 10 mois, accusé notamment de complot. Cette semaine, il a reçu la visite du nouvel ambassadeur belge installé au Cameroun et venu présenter des lettres de créance au président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Des autorités belges, mais aussi portugaises et plus globalement européennes, qui selon les proches du chercheur emprisonné, n'en font pas assez pour obtenir sa libération. François Mazé.
C'est en même temps que 5 autres ambassadeurs qu'Alain Leroy a remis ses lettres de créance mardi au président Touadéra. L'ambassadeur de Belgique, avec résidence à Yaoundé, s'est entretenu avec le ministre de la Justice, Arnaud Djoubaïa-Bazaine. Il a également rendu visite le lendemain à Joseph Figueira en prison et échangé avec ses avocats. Si le ministère belge des Affaires étrangères refuse de commenter la visite et les entretiens diplomatiques, un proche du dossier assure que le garde des Sceaux a renvoyé toute évolution de la situation à la prochaine session de la cour criminelle de Bangui, dont la date n'est pas encore connue. Mais les avocats de Joseph Figueira veulent un dénouement avant le procès. Ils ont déposé pour cela une demande de non-lieu en raison, selon eux, de la vacuité de la procédure. Ils s'étonnent par exemple que leur client n'ait été entendu que 2 fois, alors qu'il fait l'objet de 6 lourds chefs d'inculpation. Un des interlocuteurs du nouvel ambassadeur l'a trouvé concerné et déterminé. Les proches de Joseph Figueira demandent à la Belgique et au Portugal d'être plus actifs. Ils s'étonnent du silence de l'Union européenne, bailleur important de la Centrafrique, d'autant que Joseph Figueira a été victime de violences physiques lors de son arrestation par des mercenaires russes de Wagner à Zemio, dans le sud-est du pays, où il conduisait une mission de conseil pour une ONG américaine.
François Mazé. Bangui, où ont pris la parole hier également les avocats des frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, Christian et Eusèbe Dondra, arrêtés cette semaine sur des soupçons de projet d'empoisonner le président Touadéra. Depuis, leurs avocats assurent qu'ils n'ont pas pu les voir. Des avocats qui demandent par ailleurs à avoir accès aussi au dossier pénal pour tenter de comprendre exactement ce qui leur est reproché. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Niger et un nouveau sabotage signalé avant-hier soir sur le pipeline qui exporte le pétrole brut du Niger vers le port de Cotonou au Bénin, une infrastructure visée régulièrement par les membres de groupes armés. L'attaque a eu lieu près du village de Mounseka, non loin de la frontière avec le Nigeria, sans que l'on sache ce matin qui en est l'auteur.
RFI.
5 ans de fermeture appartiennent désormais au passé. En Afrique du Sud, à Johannesburg, la bibliothèque municipale a enfin rouvert avant-hier, elle qui avait été fermée en 2020 à cause de restrictions liées au Covid et qui était restée porte-close pour d'importants travaux de rénovation, notamment de mise aux normes de sécurité. Certes, aujourd'hui, les travaux ne sont pas encore complètement finis, mais au moins, la bibliothèque a rouvert ses portes. Reportage de Valentin Hugues.
Que serait une bibliothèque sans ses étudiants ? Le jour de la réouverture, certains sont donc là, impatients de pouvoir entrer après 5 longues années d'attente. Domizo a 17 ans et porte l'uniforme de son lycée.
Je suis très enthousiaste. De l'extérieur, l'architecture de cette bibliothèque est si impressionnante qu'elle laisse entrevoir tout le savoir qu'elle renferme. Et sa fermeture a été un obstacle pour de nombreux étudiants qui n'ont pas les moyens d'acheter les livres.
Raison pour laquelle des associations se sont battues pour la réouverture. Flaubert est la fondatrice de Johannesburg Heritage.
Nous avons donc organisé cette grande manifestation l'année dernière et tout d'un coup, nous avons été invités aux réunions avec les parties prenantes. Et à chaque fois, on demandait à quand la réouverture, parce que l'accès public à l'information fait partie des droits de l'homme.
À l'intérieur, l'engagement de sa fondation est salué par le maire de la ville. Ensemble, ils parcourent les lieux, le regard émerveillé, guidé par Temba Matibé, président d'une l'agence de développement en charge des infrastructures.
On voit les tuyaux rouges pour les incendies. En cas de départ de feu, l'eau arrive automatiquement. Ici, au plafond, vous pouvez voir que tous les câbles électriques sont blancs, propres. Ils ont été changés.
Une rénovation à 4 millions d'euros, mais pour l'instant, l'escalier est encore condamné, car le premier étage n'est pas encore prêt. La réouverture complète aura lieu au mois d'août. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
L'Afrique du Sud qui est derrière l'île Maurice, la Libye et l'Algérie, le quatrième pays d'Afrique dont les habitants sont les plus heureux, si l'on en croit l'Université d'Oxford au Royaume-Uni qui vient de publier son classement annuel, compilation d'une série de données pour chaque pays. En Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête, portée notamment par la générosité et par la perception de la corruption. Alors, quelles sont les clés du bonheur des Ivoiriens ? Un reportage à Abidjan de Benoît Almeras.
Pour cette commerçante, être heureuse, c'est être en couple.
C'est vous qui allez me rendre heureux parce que je suis célibataire.
Donc, si je dois dire, c'est l'amour qui vous rend heureuse.
Mais si, c'est l'amour et c'est ton amour là que je veux.
Il y a ceux qui cherchent le bonheur spirituel.
Ce qui me rend heureux d'abord, c'est ma foi religieuse.
Sans oublier le matériel.
Et en second plan, à mon activité aussi qui me rend heureux.
Quand tu luttes et puis tu gagnes un peu quand même. C'est pas qu'on gagne gros, mais c'est un peu comme si tu as une petite récompense.
Et il y a la famille pour Gertrude.
Ce qui me rend heureux, c'est le temps que je passe avec mes enfants, avec mes proches.
Sans oublier la santé, le foot et la fête, Zié Ouattara est sociologue à l'université de Boaké. Le chercheur planche en ce moment sur un indice ivoirien du bien-être. Dans ses enquêtes, la solidarité occupe une place importante.
Ce qui est ressorti, c'est le fait de se sentir vraiment utile dans sa communauté. Savoir que je peux rendre service à mon voisin, on peut même s'emprunter des choses. C'est des éléments comme ça qui sont très structurants dans l'approche du bien-être au niveau des communautés.
Et en plus du vivre ensemble, le chercheur a identifié une douzaine de dimensions du bien-être. Prendre soin de ses proches est un moteur du bonheur. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
À Abidjan, où il est 4h41.
Afrique Matin sur RFI.